appris à vivre avec. De toute façon, je suis comme ça, je ne pourrai jamais m'en débarrasser. Et c'est comme ça. Ou êtes-vous de ceux qui êtes plutôt, oui, effectivement, j'ai peur, mais cette peur, je veux la combattre avec les bonnes armes. Je ne veux pas rester comme ça. Je veux la vaincre, cette peur. Alors ce matin, je vous propose de lire un psaume écrit par quelqu'un qui a connu la peur. Aussi étonnant que cela puisse paraître, il s'agit de David. Il s'agit du psaume 34, que je vous invite à prendre avec moi. Un psaume qui parle de peur. J'ai intitulé mon message « Nos peurs, ces géants possibles à vaincre ». Bien sûr, on pense à David qui a combattu un géant, qui était Goliath. Mais ce ne sera pas l'histoire de David et Goliath, on va y faire référence. Et avant cela, je vais prier. Père Céleste, merci encore parce que tu nous as laissé ta parole, Seigneur. Et aide-nous à la vivre, cette parole. C'est vrai qu'on la connaît, Seigneur, en tout cas pour la plupart. Mais Seigneur, voilà, je prie que tu nous aides vraiment à expérimenter que ta parole, elle est bonne, elle est vitale. Aide-nous à y prendre goût, Seigneur. Et voilà, qu'on se laisse transformer par elle. Merci Seigneur, et je m'abandonne à toi pour ce message. En Jésus-Christ, amen. Je vais lire psaume 34, donc, de David. Lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chassé par lui, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les humbles écoutent et se réjouissent. Magnifiez avec moi l'Éternel, exaltons ensemble son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'arrache à toutes mes frayeurs. Quand on regarde à lui, on resplendit de joie et le visage n'a pas à rougir. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui désire la vie, qui aime de longs jours pour voir le bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Écarte-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre ceux qui font le mal pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les arrache à toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais de tous l'Éternel le délivre. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur fait mourir le méchant, et ceux qui haïssent le juste seront condamnables. L'Éternel libère l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui se réfugient en lui échapperont à la condamnation. Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Un psaume tellement bienfaisant, qui est là pour justement nous aider à combattre nos craintes. Et la vérité que j'ai retirée, en tout cas de ce psaume, qui résume ce psaume, c'est que la crainte de l'Éternel libère de toutes les autres craintes. La crainte de l'Éternel libère de toutes les autres craintes. Et je vous invite à voir cela en trois points. Premièrement, eh bien, examinons ensemble quelles sont les causes et les conséquences de nos peurs. Analysons quelles sont les causes de nos peurs et qu'est-ce que la peur entraîne, les causes et les conséquences. Deuxièmement, nous verrons le remède contre la peur d'après ce psaume. Qu'est-ce que ce psaume nous apprend sur comment combattre nos peurs? Et troisièmement, nous verrons que le salut, bien sûr, il est le remède par excellence, le remède contre la peur. Le salut, c'est une délivrance qui se goûte et qui se partage. Le salut, c'est une délivrance qui se goûte et qui se partage. Donc premièrement, analysons quelles sont les causes et les conséquences de nos peurs. Alors, si vous connaissez l'encyclopédie sur Internet, Wikipédia, voici, j'ai pris cette définition, voici ce qu'elle propose comme définition. La peur est une émotion, donc c'est le psaume 34 pour ceux qui n'étaient pas là. Alors, définition de la peur d'après Wikipédia, la peur est une émotion ressentie généralement en présence ou dans la perspective d'un danger ou d'une menace. En d'autres termes, la peur est une conséquence de l'analyse du danger et permet au sujet de la fuir, de le fuir ou de le combattre. Donc voilà, on analyse, il y a un danger, on l'analyse, mais une question se pose. Une question se pose, est-ce que notre analyse du danger est juste ? En d'autres termes, est-ce que la menace qui nous fait tellement peur, elle est réelle ou est-ce qu'elle est imaginaire ? Ou est-ce qu'elle est réelle mais disproportionnée ? Et une étude a montré que 95% de nos peurs sont infondées. 95% de nos peurs sont infondées, ça veut dire que c'est dans notre tête. En grec, la peur se dit phobie. Et bien sûr, on a donné des mots comme claustrophobie, peur d'être enfermé. Arachnophobie, pour ceux ou celles qui ont peur des araignées. Agoraphobie, peur de la foule. Et il y a d'autres peurs encore. La peur du lendemain, de manquer du nécessaire. Ou encore la peur de ne pas être à la hauteur. Vous avez une mission à accomplir et vous ne vous sentez pas à la hauteur. Ou la peur de souffrir. Ou la peur d'une punition, d'un châtiment. Ou la peur de vieillir. On a parlé des cheveux blancs tout à l'heure. Ou la peur de mourir. Alors la peur, elle peut se manifester physiquement, physiquement, par une accélération des battements du cœur, une difficulté à respirer, une angoisse, ça coupe le souffle, littéralement. Des genoux qui s'entrechoquent parfois, on voit pas ça que dans les dessins animés. Des tremblements, un bégaiement, on perd sa voix. Une paralysie physique, autant de symptômes extérieurs qui montre la réalité de cette émotion intérieure qu'est la peur et qui nous touche tous, qui peut dire qu'il n'a jamais eu peur. Alors, quelles peuvent être les causes de nos peurs ? Analysons, quelles sont les causes de nos peurs ? Qu'est-ce qui suscite la peur ? Eh bien, pour ça, quand est-ce qu'a eu lieu la première peur ? Il faut remonter aux origines, jusqu'au péché originel. Cette émotion de peur n'était pas connue par Adam et Ève. Jusqu'au moment où ils ont désobéi à Dieu en prenant du fruit défendu. Et lorsque Dieu se promenait dans le jardin et a demandé à Adam « Où es-tu ?» Voici ce qu'a répondu Adam en Genèse 3:10. « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » La première peur était née, celle de Dieu, à cause du péché. Alors oui, le péché entraîne la peur. Et inversement, la peur peut entraîner le péché. C'est une roue dont il faut briser le cycle. Et c'est la peur qui est à l'origine d'actes peu glorieux de David qui a écrit ce psaume 34. Quand on voyons ensemble le contexte de ce psaume. David, tout homme selon le cœur de Dieu, il a fait des actes peu glorieux. Et il a eu peur. Mais attends, au fait, David, c'est pas celui-là qui a vaincu le géant Goliath ? Qui a osé le confronter, seul les autres l'ont lâché, il est le seul à avoir confronté le géant Goliath. Oui, c'est bien ce même David qui a terrassé le géant Goliath grâce à sa foi en Dieu. Et c'est bien ce même David qui a connu non pas une, mais des peurs, des frayeurs, même après sa glorieuse victoire qui a fait sa réputation. Alors le contexte de ce psaume, David n'était pas encore roi sur Israël et il fuyait le roi Saül qui était jaloux de lui. Jaloux de lui à cause de sa popularité en ayant vaincu Goliath. Saül était jaloux de David au point de vouloir le tuer. Et donc David a fui devant Saül. Et dans sa fuite, il s'est retrouvé devant le sacrificateur Achimélec et il a menti. Il a menti au sacrificateur sur le pourquoi de sa fuite. Il n'a pas voulu lui dire la raison. Donc, mensonge, péché. La suite, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il a fait une tentative désespérée de se réfugier chez qui ? Chez les Philistins. Alors, c'est en 1 Samuel 21 que vous pouvez lire son histoire. Il a fui chez le peuple dont il avait vaincu le champion, Goliath. Alors, c'était une mauvaise décision qui était prise dans la peur et dans la précipitation. Et c'est souvent ça que la peur entraîne. On prend des mauvaises décisions parce qu'on n'a pas le temps, on se dépêche. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, les Philistins chez qui David était venu se réfugier ont reconnu celui qui avait vaincu leur champion Goliath. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le texte nous dit que David eut une très grande peur. En 1 Samuel 21, verset 12, il eut une très grande peur. Vous imaginez, il s'est retrouvé devant le roi des Philistins. Et qu'est-ce qu'il a fait là? Eh bien, il a fait le fou. Il a feint d'être fou. Il a simulé la folie pour échapper au roi. Et le roi a dit qu'il ne manquait pas de fou et il n'avait pas besoin de celui-là en plus. Alors, eh bien, David a pu s'échapper comme ça. Il est parti, et c'est cette simulation qui lui a sauvé la vie, il faut bien le reconnaître. Alors, il est parti se réfugier dans la caverne d'Adoulam, d'où on suppose qu'il a écrit ce psaume 34. Voilà le contexte du psaume. Alors oui, le péché entraîne la peur. David avait menti au sacrificateur Ahimélec. Et inversement, la peur entraîne le péché. C'est un cycle, un cercle vicieux. Et comment sortir de ce cercle vicieux? Alors il y a effectivement, il y a un remède, on verra ça tout à l'heure. Est-ce que vous avez remarqué que quand on a peur, souvent des petites peurs, eh bien, elles sont petites au début. Mais elles grandissent. Elles grandissent, elles grandissent, elles grandissent dans notre tête au point de devenir des géants. Et la peur aussi grandit parce qu'elle est contagieuse. On se rappelle dans le récit de David et Goliath, tout le monde avait peur de Goliath. Tout le monde avait le même discours. Qui peut vaincre un tel géant? Sauf un petit jeune homme, David, qui lui avait foi en Dieu. La peur, elle est donc contagieuse. Elle peut devenir un géant si on ne la combat pas, d'où l'importance de la combattre. Mais contrairement aux idées reçues, le contraire de la peur, c'est quoi? C'est pas le courage. La peur, c'est une émotion. Le contraire de la peur, c'est la paix du cœur. La paix du cœur qui vient d'une foi inébranlable en Dieu. Ce que David a manifesté devant Goliath, il avait connu cette paix. En tout cas, ce courage. David, donc, c'était un homme selon le cœur de Dieu, nous dit la parole. Il était loin d'être parfait. Il n'était pas parfait. On peut se retrouver dans David, dans ses actes de courage, dans ses actes de lâcheté aussi, de peur. En tout cas, David, dans ce psaume, il a connu, il a expérimenté la peur, il a expérimenté la délivrance de Dieu. Et pourquoi il écrit ce psaume, inspiré par Dieu? Eh bien, pour nous faire profiter de son expérience. Il ne veut pas garder ça pour lui, je vais y revenir. Il a expérimenté à la fois le courage et la peur, il a expérimenté la délivrance totale qui vient de Dieu. Et par ce psaume, David veut nous enseigner ce que lui-même a vécu. Et quel est le remède face à ce géant qu'est la peur? Voyons donc mon deuxième point. Quel est le remède contre la peur d'après ce psaume? Déjà, quand on a peur, un premier remède, eh bien, c'est de reconnaître nos peurs. C'est de ne pas les nier, de ne pas être dans le déni. Reconnaissons-les, notre peur, quand elles sont là. Accueillons-les, nos peurs. Honnêtement, identifions-les. De quoi est-ce que j'ai peur? Qu'est-ce que c'est qui me fait peur? Et puis, d'accord, j'ai peur. Quand on a reconnu notre peur, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Qu'est-ce que fait imitant David? Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va louer Dieu. Il loue Dieu. Verset 1. Là, il a été délivré. Et qu'est-ce qu'il dit, verset 1? Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Toujours. Ça veut dire pas seulement quand il a été délivré. Il a vécu quelque chose qui va l'aider, qui l'a aidé pour les fois d'après. Il a décidé de louer le Seigneur en tout temps. Ça veut dire, pendant la peur, pas seulement après quand on est délivré, mais c'est quand on a peur qu'on est invité à louer le Seigneur. Premier remède, la louange. Comme s'y était engagé David. Et remarquez l'insistance dans ce verset 1 avec des mots comme « toujours ». Sa louange sera toujours dans ma bouche. En tout temps, je bénirai l'Éternel en tout temps. C'est une invitation à louer Dieu sans cesse. Dans les bons comme dans les mauvais moments. Dans le courage comme dans la peur. Il faut être intentionnel. David, qu'est-ce qu'il dit dans son psaume? Il dit littéralement à Dieu qu'il est fier de lui. David dit, il exprime à Dieu sa fierté de son Dieu. Voilà ce qu'il dit, que mon âme se glorifie en l'Éternel, au verset 2. Et puis au verset 5, quand on tourne les regards vers, vers lui, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. La honte, elle va avec la peur. Et la fierté, c'est tout le contraire de la honte. Alors vous voulez ne plus avoir honte, ne plus rougir, eh bien faites de Dieu votre fierté. Soyons fiers de Dieu. Il est digne qu'on soit fier de lui. Et qu'est-ce qui se passe quand on a honte? On regarde à soi. Bien, ne faisons pas dépendre notre identité de nos performances, de nos origines, de nos diplômes, de nos richesses. Mais faisons dépendre notre identité de qui est Dieu et de ce que lui dit de nous, de ce que lui pense de nous. Et il nous aime. Alors nous aurons une juste vision de notre valeur personnelle. On n'aura plus de raison d'avoir honte quand on connaît notre valeur aux yeux de Dieu. Et nous serons mieux à même de réagir devant le danger ou devant l'humiliation. Si vous êtes déjà arrivé d'être humilié. Et puis, tourner nos regards vers Dieu va nous aider à mieux analyser la situation qui nous fait peur. C'est en tournant nos regards vers lui que on verra plus clair. On verra si la menace qui nous fait tellement peur, elle est réelle ou si elle est imaginaire, ou si elle est disproportionnée. C'est en tournant nos regards vers Dieu qu'on va voir les choses plus clairement. Et si elle est réelle, eh bien, on se rappellera que Dieu est tout puissant pour nous délivrer de n'importe quel danger. Tourner ses regards vers le Seigneur, c'est ce à quoi nous invite ce psaume. Tourner ses regards vers le Seigneur, c'est bien sûr le prier. Le prier et même crier à lui. Est-ce qu'il vous arrive de crier à Dieu? Peut-être vous avez peur des voisins. Si c'est le cas, et que vous avez une voiture, prenez une voiture et criez à Dieu. La voiture, c'est un excellent endroit pour épancher son cœur à Dieu, pour laisser partir tout ce qui nous pèse. Tourner ses regards vers le Seigneur, c'est le prier, même crier à lui. La prière la plus courte, c'est « Au secours, Seigneur !» On n'a pas le temps, là, de détailler cette prière. Et est-ce que le Seigneur, il entend cette prière? Est-ce qu'il entend vos cris, nos cris? Est-ce qu'il nous répond? Regardons ce psaume, verset 6. « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. » Verset 15. « Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. » Verset 17. « Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. » C'est un psaume qui est entier, avec des expressions telles que « tous »,« toutes », »,« rien », »,« aucun », »,« toujours ». Un psaume entier. Regardez encore les versets, verset 4. « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Verset 6, fin du verset 6. « Et il le sauve de toutes ses détresses. » Verset 17, fin du verset 17. « Et il les délivre de toutes leurs détresses. » Il n'y a pas de demi-mesure avec Dieu. Quand il sauve, c'est à 100%. Parce que Dieu sauve. Et c'est son salut entier qui provoque notre louange. En tout temps. Qui a provoqué la louange de David. Qu'est-ce qui se passe quand on tourne le regard vers Dieu? Ce qu'il nous invite à faire. Eh bien, Dieu tourne ses regards vers nous. Il nous délivre et sa délivrance, elle est totale. Et souvent, et je crois que là on est dans une année où on a semé beaucoup de tournesol. Je ne sais pas si vous avez vu des champs de tournesol. Encore en venant ici, on a observé des champs de tournesol. Et les tournesols, ils portent bien leur nom, tournés vers le soleil et aussi vers le sol. Mais les tournesols, si on analyse les tournesols, ils ont beaucoup à nous apprendre. Parce que tout le jour, il se tourne en permanence vers le soleil quand il brille. Il tourne avec le soleil. Donc, il tourne d'est en ouest. Le soleil se lève à l'est, il se couche à l'ouest. Et ils sont rayonnants. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'un tournesol, ça ressemble au soleil vers qui il se tourne? Il est jaune, il a des pétales qui nous rappellent les rayons. Le tournesol ressemble à celui vers qui il se tourne. Et quand le soleil se couche, le tournesol se tourne vers l'est. Là, il s'arrête de tourner et il attend que le soleil se lève. à l'est, attendant son lever pour être... Il est déjà tourné vers, dans la direction où le soleil va se lever. Alors là, on peut imiter le tournesol dans notre relation avec Dieu. Êtes-vous dans la détresse ce matin? Tournez-vous vers le Seigneur en vous attendant à lui, avec l'assurance qu'il viendra vous délivrer aussi sûrement que le soleil se lève à l'est. Parce qu'il l'a promis. Et quand Dieu promet, il tient toujours ses promesses. Et dans ce psaume, il y a bien d'autres promesses encore. Regardons ensemble. En voici deux autres. Verset 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Littéralement, Dieu a établi son campement parmi nous pour que nous soyons toujours en sécurité avec lui. C'est pas qu'il part en vacances et puis il revient quand il a le temps ou quand on a besoin, non. Dieu veut faire sa demeure parmi nous. Il a établi son campement parmi nous pour que nous soyons toujours en sécurité avec lui. Est-ce que vous avez peur du lendemain? Peut-être une difficulté professionnelle? Vu la conjoncture actuelle, où on voit bien que beaucoup de choses sont très incertaines. Eh bien, voici une autre promesse pour vous. Verset 9, pour nous tous. Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Rien ne manque d'aucun bien. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Alors, dans ces deux versets, verset 7 et verset 9, il est quand même question d'une crainte. Il est quand même question d'une crainte. Mais celle-là, cette crainte-là, il faut la garder. Parce que toutes ces promesses s'adressent uniquement à ceux qui gardent cette crainte. De quelle crainte s'agit-il? Toutes ces promesses ne s'adressent pas à tous, mais uniquement à ceux qui gardent cette crainte bien précisément. Eh bien, il s'agit de la crainte de l'Éternel. Verset 7, on le retrouve. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Verset 9, craignez l'Éternel. Et c'est ici la perle, la pépite que ce psaume veut nous enseigner. Et là, David, il insiste, il y met la forme. Avant de nous enseigner, voici ce qu'il dit au verset 11. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. C'est un appel à écouter. Et ici, il s'agit d'écouter Dieu. Et c'est le même verbe employé au verset 6 qui dit que Dieu, il écoute, il entend nos prières. Ça veut dire quoi? Puisque Dieu entend nos prières, Dieu écoute nos prières. Est-ce que nous prenons le temps de l'écouter? Est-ce que nous écoutons Dieu? C'est le même verbe. Dieu nous entend. Est-ce que nous l'écoutons? Il nous invite à l'écouter. Alors qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner par la bouche de David, par la plume de David? Eh bien, cette grande vérité qui est le remède par excellence contre la peur, le voici. Vous ne voulez plus craindre les hommes, eh bien craignez Dieu. Cette crainte de Dieu, elle est toute différente de celle devant un danger. Et le commentateur Gilles Georgel a dit ceci. La frayeur paralyse et menace, la crainte de Dieu libère, car elle nous élève au-dessus du danger. Craignez Dieu. Pour ne plus avoir peur des hommes et des autres craintes. Des autres dangers. Qu'est-ce que ça veut dire craindre Dieu pour un chrétien? Il y a certaines versions qui ont traduit craindre par révérer Dieu. Oui, révérer, ça veut dire respecter Dieu. Mais il faut le sens de craindre, il est là aussi. Craindre Dieu, est-ce que c'est la crainte de la punition? Non, pas pour le chrétien. Parce que Jésus a pris notre punition. Alors c'est quoi cette crainte? Ça veut dire quoi craindre Dieu pour un chrétien? Eh bien, explication au verset suivant. David va nous conduire dans qu'est-ce que c'est que craindre Dieu? Et les versets suivants, versets 13 et 14, nous expliquent en fait, que la crainte de Dieu, c'est toute l'éthique de la vie chrétienne. Notre vie chrétienne doit manifester que nous craignons Dieu. Et on va voir en quoi ça consiste. Et David, donc, eh bien, il a expérimenté le salut de Dieu, il est bien placé pour en parler, et voici ce qu'il nous enseigne. Verset 13. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Une invitation à dire la vérité. Parce que le mensonge, ça entraîne la peur. Et David savait de quoi il parlait. Lui qui était déjà l'objet de critiques et de jalousies, eh bien, il avait succombé à la peur en mentant au sacrificateur et en faisant le fou devant le roi des Philistins juste après avoir menti. Alors, il a compris la leçon, David. Et il veut nous en faire profiter. Garder notre langue, ça signifie quoi? Ça signifie dire la vérité et s'éloigner des critiques, des mensonges. Et si vous avez parfois tendance à tomber facilement dans la critique au travail, le travail n'est pas un long fleuve tranquille, hein. C'est facile de critiquer les collègues, on se sait critiquer parfois surtout si, ben oui, ils savent que vous êtes chrétien, vous êtes parfois attesté. Eh bien, un bon moyen pour ne pas rendre la critique, c'est de louer Dieu, de faire comme David. Louer Dieu en tout temps, verset 1. Parce que le temps passé à louer Dieu sera autant de temps en moins à critiquer les autres quand vous êtes tenté de le faire. Donc, premier remède, dire la vérité, avoir un langage de vérité. Garde ta bouche, ta langue. Deuxième remède, verset 14, éloigne-toi du mal et fais le bien. Nous avons été sauvés pour nous éloigner du mal, pour nous rapprocher de Dieu. Oui, Dieu nous aime, malgré notre péché. Et il nous a appelés tels que nous sommes. Il n'a pas attendu qu'on soit meilleur. Mais il ne nous a pas appelés à rester tels que nous sommes. Mais il nous a appelés à rechercher la sanctification. Et ça, c'est le meilleur moyen de nous éloigner du mal, c'est de faire le bien. Pour ne pas faire le mal, fais, mais fais le bien. Fais ces bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Éphésiens 2, 8 et 9. Et faire le bien sera autant de temps en moins à faire le mal. Quand on est intentionnel, actif. À dire la vérité, à faire le bien. Et enfin, troisième remède, fin du verset 14, contre la peur. Recherche et poursuis la paix. Recherche et poursuis la paix. Le mot poursuivre, il est fort. Il signifie littéralement persécuter. Persécute la paix. Ne la laisse pas tranquille. Ne la laisse pas en paix. Recherche-la. Poursuis-la ardemment pour la garder. Là encore, il faut être intentionnel d'éviter les disputes quand on peut. Je dis bien quand on peut. Quand on peut. L'apôtre Paul dit, pourtant que ça dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Pourtant que ça dépend de nous. C'est pas toujours possible. Recherchons activement cette paix, ardemment. Alors, gardons notre langue, éloignons-nous du mal, faisons le bien, et recherchons activement et poursuivons la paix. Mais soyons honnêtes, peut-être vous n'arrivez pas à garder votre langue, c'est plus fort que vous. Vous tombez facilement dans la critique. Vous n'arrivez pas à vous détourner du mal et à faire le bien, tel que vous voudriez le faire. Vous n'arrivez pas à rechercher et à poursuivre la paix. Et du coup, eh bien, conséquence, vous avez encore beaucoup de craintes. Et peut-être, vous ne vous sentez pas suffisamment juste. Parce que ces exhortations, elles s'adressent à des justes. Verset 15, les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Peut-être, vous ne vous sentez pas assez juste pour bénéficier de ces promesses. Alors, qui sont ces justes? Sur qui l'Éternel a penché son regard. Littéralement, il a posé ses yeux sur nous et il a tendu son oreille vers notre cri. Qui sont ces justes? J'ai dit nous exprès. Église. Et qui sont ces méchants de qui il a détourné son regard, verset 16. Voyons mon troisième point. Le salut est une délivrance qui se goûte et qui se partage. Le salut est une délivrance qui se goûte et qui se partage. À la base, personne n'est juste devant Dieu. Nous étions tous coupables parce que nous lui avons tous désobéi. Ce qui explique nos craintes. Mais nous pouvons être rendus justes devant Dieu. Et voici comment. C'est encore ce psaume, le verset 22 qui nous dit « L'Éternel, verset 22, l'Éternel rachète l'âme de ses serviteurs. Et aucun de ceux qui se confient en lui ne sera tenu pour coupable. » Et là, bien sûr, on a la description de ce que Jésus a fait pour nous racheter, pour nous innocenter, pour ne pas que nous soyons tenus pour coupables. Jésus, le Fils parfait de Dieu, il nous a rachetés de nos péchés en mourant sur la croix pour nous. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'a fait le Père? Pendant que Dieu mourait sur la croix, il expiait nos fautes, eh bien Dieu a détourné momentanément son regard de son Fils, parce qu'il portait les péchés du monde entier. Et c'est parce que Dieu a détourné momentanément le regard de son Fils, qui était sur la croix, qu'il peut maintenant en permanence pencher son regard, ses yeux, ses oreilles, sur tous ceux qui croient en lui et qui se repentent de leurs péchés. C'est du H24, le salut de Dieu, il est complet, quand on croit en son Fils. Oui, ça lui a coûté. Dieu a détourné son regard de son Fils pendant qu'il portait nos péchés, pour ne plus avoir à détourner le regard de nous, pour pouvoir avoir les regards entièrement sur nous et pencher son oreille sur nous. Voilà les justes, ce ne sont pas des gens parfaits. C'est nous, l'Église, qui avons placé notre confiance en Christ. Et si vous ne l'avez pas fait, Dieu vous y invite encore à vous tourner vers son Fils. Voilà les justes, ceux qui craignent Dieu et qui peuvent s'approprier ses promesses de délivrance. Voilà une autre promesse, verset 19. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Quand je témoigne à quelqu'un, quand j'annonce l'évangile à quelqu'un, je ne lui dis pas « convertis-toi et tu n'auras plus de problème ». Ça serait lui mentir. Non, il est dit ici « le malheur atteint souvent le juste ». Et peut-être ça ne vous étonne pas, vous avez déjà vécu beaucoup de souffrances, de malheurs. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'a plus de problème. Donc ne soyons pas surpris par les épreuves qui nous tombent dessus souvent, nous dit ce verset. Le malheur atteint souvent le juste. Mais Dieu nous fait cette autre promesse qu'il nous en délivre. Non pas souvent, mais toujours. Toujours. L'Éternel en délivre toujours. Attention, toujours ne veut pas dire immédiatement. Mais nous avons sa promesse que Dieu nous délivre toujours. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être vous souffrez, peut-être vous avez souffert. Qu'est-ce que nous pouvons faire quand nous souffrons? Eh bien, allons vers celui qui a souffert. Jésus n'a pas souffert pour rien. Il a souffert pour nous sur la croix. Non pas pour nous éviter la souffrance, mais pour nous accompagner dans la souffrance. Jésus n'a pas souffert pour rien. Il est mort, oui, mais il fallait qu'il passe par la souffrance. Et il a souffert aussi pour nous accompagner lorsque nous souffrons, pour rendre la souffrance plus supportable. Il nous comprend. Il a lui-même connu l'angoisse et la souffrance. Tout fils de Dieu qu'il est. Il l'a connu sur la croix pour nous accompagner lorsqu'on souffre et nous aider à la supporter jusqu'à la délivrance qui est promise, parce que la délivrance, elle est promise. Alors, est-ce que vous avez le cœur brisé? Ce psaume parle de ceux qui ont le cœur brisé. Il peut nous arriver d'avoir le cœur brisé lorsqu'on tombe. On pêche et on sait qu'on a attristé Dieu et on a le cœur brisé. Mais Dieu nous fait cette autre promesse au verset 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le mot brisé, c'est le même mot qu'au verset 20 que je lis. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Ce verset 20, il fait encore référence au Christ. Il est cité dans Jean, l'évangile de Jean 19:36, pour désigner l'agneau pascal dont aucun os ne devait être brisé, d'après la loi. Et effectivement, Dieu a veillé à ce que Jésus, l'agneau de Dieu, à ce qu'aucun de ses os ne soit brisé. Il a tenu sa promesse et Jésus est ressuscité. Alors celui qui a veillé à ce que les os de son fils, aucun de ses os ne soit brisé, il veillera à ce que vous ne soyez pas brisé au-delà de ce qu'il a décidé. Il tiendra sa promesse de guérir et de restaurer totalement ceux qui ont le cœur brisé et qui se tournent vers lui. Il est puissant pour cela. Il a veillé à cela sur son fils. Si vous avez le cœur brisé, Dieu vous restaurera complètement si vous vous tournez vers lui. David a connu une délivrance complète, totale. David connaissait Dieu, il aimait Dieu, même s'il n'était pas parfait. Il avait une relation personnelle avec lui. C'est ce que nous aussi nous sommes invités à avoir. Mais David ne voulait ni ne pouvait garder pour lui ce qu'il avait vécu. Cette délivrance totale qu'il avait vécue, il ne pouvait pas la garder pour lui. Il voulait la faire partager au peuple de Dieu. Et effectivement, une joie, elle est complète que lorsqu'on la partage. Et merci, Brigitte, d'avoir partagé ce que tu as, ce qui t'a touché tout à l'heure. Et on le fait les uns les autres. On peut le faire en réunion de prière. On le fait lorsqu'on se rassemble entre nous. Et c'est ça qui nous encourage, qui nous édifie. Quand on partage entre nous la délivrance que nous avons eue, ou alors quelque chose où on a vu la main de Dieu et on veut en faire profiter les autres. Une joie n'est complète que lorsqu'on la partage. Est-ce que vous avez vu déjà des étudiants qui ont eu leur bac ? Après, ils lisent la liste des reçus. Alors, ils sont anxieux. Et puis, ça y est, ils sont marqués. Ils ont eu leur bac. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils sautent au cou de leurs amis parce qu'ils ne peuvent pas rester garder cette crainte, cette joie pour eux-mêmes. Ils ont besoin de la partager. Eh bien, pour nous, en Église, c'est le même principe. David voulait fortifier le peuple de Dieu en l'invitant à louer Dieu avec lui, à cause de la délivrance dont il a été l'objet. Verset 3, je relis. « Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. » Et lui-même, David pouvait dire, fin du verset 4, « Dieu m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Et parce que David pouvait dire cela pour lui, il peut le dire pour les autres. Et regardez ce qu'il dit, fin du verset 17. Il peut se permettre d'affirmer la même chose pour les justes. Fin du verset 17. Dieu les délivre de toute leur détresse. Il pouvait se permettre de le dire parce qu'il a vécu pour lui. Et il fait cette promesse aux autres, à ses frères et sœurs. Dieu les délivre de toute leur détresse. Il l'a vécu. Alors oui, si la peur elle est contagieuse, eh bien la foi elle est aussi contagieuse. Et la confiance en Dieu, elle est contagieuse. Et on se fortifie mutuellement lorsqu'on partage nos délivrances, nos bénédictions reçues de Dieu. Et que nous, pour louer Dieu tous ensemble. Et voilà pourquoi l'Église, voilà pourquoi Dieu a conçu son projet qu'est l'Église. On est plus fort ensemble que tout seul. Comment est-ce que Dieu s'est fait connaître à David ? Par son salut. Dieu est Dieu qui sauve. Dieu sauve. C'est son salut qui a fait que David a explosé de louanges envers Dieu. Dieu sauve, c'est ainsi qu'il se fait connaître à David et à nous. Et David, après avoir vécu cette délivrance, après avoir été sauvé, il pouvait et il voulait nous lancer cette invitation qui est au verset 8. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Sentez et voyez, littéralement, ces verbes veulent dire goûter et voyez combien l'Éternel est bon. Goûter, savourer la bonté de l'Éternel. Lorsque nous expérimentons son salut, nous expérimentons sa bonté. Lorsque nous l'expérimentons, et on ne peut plus s'en passer. Lorsqu'on a compris la bonté de Dieu, son amour pour nous, lorsqu'on a accepté son salut en Jésus-Christ, sa bonté devient notre nourriture, on ne peut plus s'en passer. On la goûte, on la savoure comme David. Et c'est mieux qu'un fondant au chocolat. En tout cas, j'espère que on peut vraiment goûter à cette bonté d'une manière qui est délicieuse. Mais ça ne s'arrête pas là pour terminer. Notre joie, elle sera encore plus complète. Plus complète. Lorsque nous la partageons avec des non-croyants. Lorsque nous faisons connaître aux non-croyants ce salut en Jésus-Christ, cette délivrance, ce réconfort dont nous avons été l'objet soi-même, que nous avons nous-mêmes expérimenté. Pourquoi ? Pour qu'à leur tour, ils célèbrent Dieu avec nous, qu'ils rentrent dans la famille de Dieu. Et ce salut, eh bien, c'est à chacun de l'expérimenter. Moi, je ne peux pas croire à votre place. C'est souvent ce que je dis quand je partage l'évangile à quelqu'un. Je ne peux pas croire à votre place. Et vous ne pouvez pas croire à ma place non plus. Et parfois, vous pouvez vous trouver à court d'arguments pour convaincre quelqu'un. Mais nos arguments, notre connaissance biblique, notre force de persuasion, aussi forte soit-elle. Elles prennent fin là où c'est à la personne d'expérimenter elle-même le salut de Dieu. Et un bon exemple, c'est si vous avez soif. Si je suis en face de quelqu'un qui a soif, je peux lui parler longuement de l'eau. Tu sais, l'eau, c'est la formule, c'est H2O. Et puis, ça étanche beaucoup la soif. Tu as un bon verre d'eau fraîche quand tu as, en temps de canicule, eh bien, c'est ce qui va vraiment étancher ta soif. Je peux lui parler longuement. N'empêche que tant qu'elle n'aura pas bu ce verre d'eau, elle aura encore soif. Tant qu'elle n'aura pas expérimenté, tant qu'elle n'aura pas pris le verre d'eau que je lui tends, elle continuera d'avoir soif. Ça n'étanchera pas la soif, à moins d'écouter soi-même. Et ça serait dommage de mourir de soif. Alors, à chacun de goûter par lui-même que Dieu est bon. À chacun de goûter par lui-même le salut et la fidélité de Dieu. Et pour terminer, eh bien, je reviens au tournesol. Il arrive parfois que le soleil ne brille pas, en pleine journée. Et ce matin, il y avait quelques nuages, il y avait un champ de tournesol et on est passé devant en voiture. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu des tournesols qui ne sont pas tournés vers le soleil, mais ils sont tournés vers le sol. D'où leur nom, hein, tournesol. Ils ne sont pas seulement tournés vers le soleil, ils sont aussi parfois tournés vers le sol. Et ça m'a donné cette impression qu'ils avaient honte. Vous savez, quelqu'un qui baisse la tête comme ça, qu'ils avaient honte. Parce qu'ils ne voyaient pas le soleil. Mais dans ce cas-là, ne faisons pas comme les tournesols. Parce que même si le soleil est caché, il n'empêche qu'il continue de briller. Et lorsque des nuages assombrissent votre vie, lorsque vous êtes dans la détresse, continuons de tourner le regard vers Dieu. Ses promesses ne changent pas, il reste le même. Ce qu'il accomplit s'accomplira. Et dans ce cas-là, ne faisons pas comme les tournesols. Nous ne regardons pas à nous-mêmes, ne baissons pas la tête vers le sol, regardons en haut, vers le Seigneur, qui sauve et qui délivre. Amen. Je vais prier. Oui, Père, merci encore parce que, Seigneur, c'est... Tu nous as laissé, Seigneur, une parole qui est vraie, qui a été vécue déjà par nos prédécesseurs, qui a été vécue par David. David qui a voulu nous faire partager la joie du salut, Seigneur, en toi. Et qui l'a changé, qui a décidé de te louer complètement, en tout temps. Alors, Seigneur, aide-nous à avoir cette attitude. Nous sommes dans un monde difficile, Seigneur, de plus en plus difficile, mais aide-nous vraiment à garder les yeux tournés vers toi, le seul sauveur. Toi qui as déjà tout fait, qui as fait tout ce qu'il avait à faire pour nous sauver. Toi qui es fidèle, qui restera fidèle jusqu'au bout, aide-nous à être fidèles nous aussi, à faire ces œuvres que tu as pour nous. Voilà, pour redonner espoir à des gens qui n'en ont plus. Et Seigneur, pour nous, eh bien, aide-nous à garder toujours ce regard tourné vers toi, avec la confiance que tu as penché tes regards vers nous, parce que tu as accepté de le détourner momentanément de ton Fils. Le temps qu'il portait nos péchés. Merci Seigneur, et merci de fortifier notre foi, de nous accompagner pour la semaine qui vient, et que ta parole nous fasse porter du fruit en Jésus-Christ. Amen.